chapitre 14. Le temps continue de filer à Eous. Les cicatrices guérissent tout doucement. Le soleil brûlant continue de griller la végétation. Émile s'attelle à la réparation du vélo d'Annie les 3 jours suivants. Installé sur le pavé devant chez Annie et son mari, à l'ombre de la maisonnette, il prend son temps. Il laisse son esprit vagabonder. Annie lui apporte une limonade toutes les heures. Elle ne travaille pas l'été. Le reste de l'année, elle fabrique des bijoux qu'elle vend. L'été, elle garde ses petits-enfants qui sont en grandes vacances. Les gamins s'amusent à tourner autour d'Émile. Ils l'observent des heures durant avec ses outils et ses mains pleines de graisse. Pendant la journée, Johan part en exploration autour d'Eous. Elle revient avec des mimosas ou d'autres fleurs multicolores, les mains égratignées. Le soir, ils jouent au Scrabble jusque très tard. Ils n'ont pas de route à prendre le lendemain, pas d'itinéraire à définir, pas de contraintes d'horaire. Ils ne parlent pas pendant leur partie de Scrabble. Ils mettent la musique en fond, ils ont trouvé une petite radio sur l'étagère pleine de livres, et ils bougent leurs pions. Un soir, elle lui demande « Tu as choisi ce qu'on fera de ton corps quand tu seras mort ?» Il est tellement troublé par la question qu'il met plusieurs secondes à réagir. « Quoi ?» C'est tout ce qu'il parvient à prononcer quand il retrouve l'usage de la parole. « Tu veux être incinéré ou enterré ?»
Je... »
Pourquoi n'a-t-il jamais réfléchi à cette question ? Il se retrouve comme un idiot devant Johan.
Je crois que je m'en fiche.
Il recommence à jouer et il la regarde poser le mot xylophone sans broncher.
Et toi ?
Elle n'a pas besoin de réfléchir pour répondre, elle.
Je vais être incinérée. Comme ça, je pourrais m'envoler.
Elle retourne son chevalet. Elle n'a plus de pion. Elle vient de remporter la partie. Le vélo est réparé. Émile se retrouve de nouveau à tourner en rond dans le studio. La température du mois d'août est insoutenable. Une alerte à la canicule a été lancée. Myrtille ne sort plus dans la cour intérieure. Elle est restée dans le salon. Elle dort beaucoup. Le moindre effort la fatigue. Johan a définitivement abandonné toute idée de créer des affiches à placarder dans le village pour faire adopter Poc. Émile imagine que la séparation sera terriblement difficile quand ils devront reprendre la route. Qu'adviendra-t-il du chaton ? Peut-être Annie consentira-t-elle à le garder ? Peut-être l'offrira-t-elle à ses petits-enfants ? Elle ne pourra pas le tuer. Il sera déjà joueur et autonome. Peu avant le 15 août, ils se rendent à la mairie pour déposer leur dossier de mariage. Il ne manque aucune pièce. L'employé les informe cependant que leur dossier sera bloqué jusqu'au 26 août, date anniversaire de leur emménagement à Eous. Il leur reste encore 2 semaines à patienter. Cependant, les bans seront publiés en amont. Ils repartent satisfaits sur les petits pavés d'Eous.
« Je crois que je vais chercher un petit travail pour patienter », déclare Émile.
Johan acquiesce.
« Annie pourra peut-être t'aider. Elle connaît du monde ici. »
Myrtille paraît satisfaite ce soir-là d'apprendre qu'Émile va chercher un petit boulot.
« Il faudra bien le nourrir, ce petit !»
lance-t-elle avec son regard sévère. C'est Johan qui s'écrie offusqué.
« Il n'y a pas de bébé, Myrtille !»
Mais elle n'obtient pas davantage de crédit de la part de la vieille dame. Un festival d'art s'installe à Eous. C'est un événement annuel qui amène énormément de monde, leur apprend Myrtille. Des dizaines d'artistes occupent les ruelles. Comédiens, peintres, dessinateurs, musiciens, mimes. Les ruelles résonnent de pas, de rires, d'acclamations. Alors que Myrtille reste bien au frais à l'intérieur de son salon, Johan déambule du matin au soir sur le festival. Émile a parlé à Annie de son envie de trouver un petit boulot et elle lui a répondu
« Je m'en occupe ».
En guise de petit travail, Annie l'envoie aux 4 coins du village, chez les uns et chez les autres. Il aide à vider un grenier, changer un pneu, rafistoler une étagère, porter des courses. Les gens lui donnent un billet et lui offrent le repas. il s'aperçoit que ses trous de mémoire se font de plus en plus rares. Il a l'impression que la stabilité et la sérénité de sa nouvelle existence y sont pour quelque chose. Il est si bien occupé qu'il ne fait plus que croiser Johan. Quant à Myrtille, elle dort bien souvent quand il rentre.
« J'ai vu les bancs devant la mairie, il y avait vos noms. Quand aura lieu la noce ?»
Annie l'interroge alors qu'il repasse chez elle en fin de journée pour y déposer la caisse à outils qu'elle lui prête.
« À la fin du mois, il nous propose deux dates, le 30 ou le 31 août. On doit donner notre réponse rapidement. »
Annie est occupée à découper des carottes, un de ses petits-fils sur les genoux.
« Est-ce que certains membres de vos familles seront présents ?»
Il secoue la tête.
« Non, ce sera un simple mariage civil, rien de plus. »«
Et les témoins ?»«
On a choisi des employés de la mairie. »«
Ah !»
Annie semble déçue. Elle s'était attendue à un vrai mariage.
« Pas de robe ni d'alliance, alors ?»«
Non, rien de tout cela. »
Un matin, Myrtille les met très mal à l'aise alors qu'ils descendent les escaliers du studio. Elle les attend au bas des marches, canaille à ses pieds, avec un large morceau de tissu en dentelle blanche. C'est Johan qui comprend en premier. Elle pousse un « oh » de surprise, gênée. Émile a besoin de quelques secondes de plus pour saisir.
« J'imagine que tu n'as pas de robe de mariée !»
Johan se retrouve muette. Émile ne lui est d'aucun secours. Il reste la bouche entrouverte. Myrtille prend cela pour de l'émotion.
C'est ma robe de mariée. Elle date d'une soixantaine d'années, mais j'en ai pris grand soin. Je ne crois pas qu'elle soit démodée. Au pire, elle te donnera un petit côté vintage.
Le malaise grandit. Il ne voit pas comment se tirer de ce mauvais pas. Johan danse d'un pied sur l'autre. Émile reste immobile entre deux marches d'escalier.
Va l'essayer, ma belle. Elle devrait aller. Je ne pesais guère plus que toi à l'époque.
Ils échangent un regard perdu. Ils vont devoir jouer la mascarade jusqu'au bout, ils le craignent. Johan hésite un instant, tend une main vacillante vers la robe, se tourne de nouveau vers Émile, espérant qu'il l'aidera d'une façon ou d'une autre. Mais Myrtille le chasse avec autorité.
« Ne reste pas planté là, toi ! Sauve-toi ! Tu sais pas que ça porte malheur de voir la mariée en robe avant le grand jour ?»
Il se sent coupable de devoir abandonner Johan avec la robe de dentelle de Myrtille entre les mains.
« Comment tu t'en es sorti ?»
demande-t-il le soir en rentrant.
« J'ai dû l'essayer et Myrtille a même prévu de faire des retouches. »
Il est désolé pour elle.
« On devrait peut-être tout lui dire. »
Mais Johan secoue la tête avec ferveur.
« Hors de question, on lui briserait le cœur. »
« Tu vas faire quoi ? Tu vas la porter ?»
Elle hausse les épaules.
« Tu pourras prévoir une autre tenue et te débarrasser de la robe dès qu'on sera sorti de la maison. »
« Ouais. »
Il ne sait pas vraiment ce qu'elle pense de tout ça. Elle s'est de nouveau plongée dans son roman, Poc ronronnant sur ses genoux. 30 août. Renaud. Le mariage a lieu demain. Je me sens juste un peu vide. On a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse avoir lieu ces dernières semaines. On a effectué les démarches dans le bon ordre, on a réuni les papiers. On a même dû s'installer temporairement dans un village pour pouvoir y être considéré comme résident et avoir le droit de s'y marier. On a tué le temps jusqu'à ce que le jour de ce foutu mariage arrive. Maintenant, on y est, et je suis juste vide. Je crois que ça ira mieux une fois que ces papiers seront signés. Pour poursuivre sur une note plus légère, je ne t'ai pas raconté, mais nous avons emménagé chez une vieille dame qui s'appelle Myrtille. Elle habite au rez-de-chaussée et nous à l'étage. Sa fille nous loue l'appartement pour rien du tout, en échange, on doit veiller un peu sur elle. Moi qui étais frileux à l'idée d'emménager chez une vieille dame, je dois avouer que j'ai changé d'avis. Cette cohabitation est vraiment chouette. Il faut dire que la vieille Myrtille s'occupe tout autant de nous que nous d'elle. Je fais des petits boulots chez les uns et les autres au village pour me garder occupé. Et puis, cela nous fait un peu d'argent de poche. Tiens, hier j'ai même appris à vidanger une voiture. Mon existence ici n'a plus rien à voir avec celle que je menais à Roanne, si tu me voyais. Même si j'en suis perturbé, je dois avouer que cette existence me rend serein. Un bonheur tout simple et tranquille.
Je te donne des nouvelles très bientôt, vieux. Prenez soin de vous trois. Je t'embrasse. Émile.
Cette fois, on y est.
Johan acquiesce. Ils dînent à l'intérieur ce soir dans leur studio à l'étage. Myrtille a tenu à leur laisser un peu d'intimité à la veille de ce grand jour, et ils lui en sont reconnaissants. Ils sont un peu fatigués de jouer leur mascarade. Ils sont soulagés de pouvoir souffler un peu loin des yeux inquisiteurs de Myrtille. En plein milieu du repas, Johan pose sa fourchette et se lève de table.
J'allais oublier de t'en parler.
Il la voit se diriger vers son sac à dos rouge et fouiller à l'intérieur.
J'ai acheté ça cet après-midi.
Elle revient avec un petit coffret noir qu'elle pose sur la table devant lui.
Qu'est-ce que c'est ?
Elle lui fait signe d'ouvrir le coffret et il s'exécute. Il est surpris d'y trouver deux anneaux posés sur un petit coussin rouge.
Pourquoi ?
Demande-t-il en relevant la tête vers elle.
Pour que Myrtille arrête de poser des questions. Ça m'a rien coûté, c'est de l'acier inoxydable. J'ai considéré que c'était le prix de notre tranquillité.
Il referme le coffret en acquiesçant.
T'as bien fait.
Il recommence à manger tous les deux sans se presser. Il remarque que le chaton n'est pas là. D'ordinaire, Johan ne le descend qu'à l'heure du coucher, sur demande d'Émile. Le reste du temps, on peut être certain qu'il se trouve à ses pieds ou sur ses genoux. Ce soir, non. Elle doit être tendue. D'ailleurs, il la trouve bien silencieuse.
« Ça va ?» demande-t-il entre deux bouchées.
Elle hoche la tête.
« T'es un peu stressée ?»«
Non, pas stressée, mais bizarre. »
Il repose sa fourchette et la fixe avec gravité.
« Si tu n'es plus sûre de vouloir le faire, on peut tout annuler. »
« C'est pas ça. »
« On n'est pas obligé de le faire. Je vais mieux, d'ailleurs. Depuis qu'on est ici, j'ai presque plus de trous de mémoire. »
« Je vais le faire, Émile. On va se marier. »
« Si tu... »«
Je vais me marier demain. Ça me fait juste me sentir bizarre, mais je suppose que c'est pareil pour toi. »
Elle le sonde, et il confirme d'un hochement de tête. Il est soulagé qu'elle n'ait pas envie d'annuler le mariage.
« Ouais, je me sens un peu vide. »
Et moi, un peu paumé et... incrédule.
Ça ira mieux demain. C'est jamais rien qu'un bout de papier.
Je sais.
Le silence retombe dans le studio. Pourtant, ils ne recommencent pas à manger, ni l'un ni l'autre. Quelques secondes passent, puis Johan pose ses deux mains à plat sur la table et demande sans détour.
Tu as déjà été amoureux ?
Il est dans un état beaucoup trop étrange et léthargique pour se montrer surpris ou gêné par la question.
Ouais.
Beaucoup de fois ?
Non, une seule.
Ça a duré ?
Pendant 4 ans.
C'est Laura, la fille dont tu m'as parlé un jour.
Il se souvient de cette conversation sur le parking d'Artigues. Tout cela lui paraît étrangement loin.
Ouais, c'est elle.
Il fronce les sourcils, davantage étonné qu'embêté.
Pourquoi tu me demandes ça ?
On va se marier tous les deux, non ?
Ouais.
On peut savoir ce genre de choses l'un sur l'autre.
Il a un faible sourire.
Ouais, sans doute.
Il n'est pas vraiment enchanté de devoir raviver le souvenir de Laura à la veille de son mariage avec Johan. Elle joue quelques instants avec sa fourchette, le temps de formuler sa prochaine question.
« Tu l'aimes toujours ?»
Il s'enfonce dans son siège mal à l'aise. Il croit qu'il préférait de loin la Johan silencieuse et indifférente, qui ne posait jamais de questions.
« Elle est partie, c'est fini depuis 1 an. »«
Et alors ? Tu l'aimes toujours ?»«
Je... sans doute que non. »«
Sans doute que non ?»
Elle le fixe avec un regard sceptique. Il capitule avec un soupir.
J'imagine qu'une part de moi l'aimera toujours, quoi qu'il arrive.
Il a eu tort de songer que sa réponse satisferait Johan et sa soudaine curiosité.
Tu voulais te marier avec elle ?
Demande-t-elle avec douceur.
Johan,
c'est juste une question.
Oui, oui, j'aurais voulu. Un jour.
Il se redresse sur sa chaise. Il en a assez de ces questions.
Pourquoi ? Je voulais juste savoir.
Pourquoi ça ?
Elle hausse les épaules. Je me demandais juste à quoi tu penserais demain, quand on sera à la mairie et qu'on sera forcé de se dire oui. Maintenant, je sais que tu penseras à Laura, que ça te rendra malheureux. Je suis désolé pour ça.
Tu n'as pas à l'être. Tu me rends un service énorme.
Peut-être, mais ce sera moi devant le maire, à côté de toi, pas Laura. Et rien que regarder mon visage te sera difficile.
Ce sera pareil pour toi. Tu penseras à Léon.
Elle secoue la tête avec une vigueur qui le surprend et le laisse pantois.
Non, je penserai pas à lui demain. Ni à la mairie, ni après.
Il se retrouve un peu bête, la bouche entrouverte. Il n'a rien d'autre à ajouter. Il songe que c'était une bien mauvaise idée de ressasser tout ça à quelques heures du mariage. Il se couche très silencieux ce soir-là.